Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Maïder Gérard et Mélanie Chalandon, bien sûr Marguerite Caton-Corentin Mansoir, réalisée par Rafik Zénine et mise en onde ce matin par Clément Daté. Et comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Sémo.
Bonjour.
Tout va bien ?
Tout va bien.
Allez, on va parler de la Libye ce matin. Depuis le 4 avril dernier, plusieurs attaques meurtrières ont été lancées sur Tripoli, où se trouve le gouvernement libyen d'Union nationale, reconnu par la communauté internationale. Son chef, Fayez al-Sarraj, s'est d'ailleurs déplacé dans les quartiers touchés où il a dénoncé la sauvagerie et la barbarie de son rival, le maréchal Haftar, qu'il a qualifié de criminel de guerre. En deux semaines, les combats ont fait 174 morts selon le dernier bilan. Sans compter les blessés et les déplacés. Cette offensive a été menée alors que la conférence nationale de dialogue interlibyen était sur le point de se tenir. Alors, le maréchal Haftar cherche-t-il à torpiller le processus de discussion ? A-t-il les moyens de s'emparer de la capitale, contrôler le pays ? Comment les puissances aussi étrangères tentent-elles de peser dans ce conflit ? L'offensive militaire sur Tripoli sonne-t-elle le glas de la réconciliation nationale ? Voilà la question sur laquelle nous allons nous pencher. Pour tenter d'y répondre, Patrick Hemzadeh, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes ancien diplomate, auteur notamment de Au cœur de la Libye, de Kadhafi qui était paru chez Lattès. À vos côtés, Jalel Arshaoui, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous ce matin. Vous êtes, vous, chercheur à l'Institut des Relations Internationales à La Haye. Avant d'évoquer toutes ces questions libyennes, place d'abord à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. Le journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient d'Iran. C'est Pierre Alonso, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste à Libération. Vous rentrez tout juste d'Iran. Vous y étiez à l'occasion des commémorations des 40 ans de la République islamique. Vous avez réalisé un reportage sur l'université d'où sont partis nombre de contestations. Vous avez également réalisé une enquête sur les Afghans qui s'engagent aux côtés des Iraniens dans le conflit syrien. Mais d'abord, on va commencer, Pierre Alonso, avec les sanctions américaines, puisque après plusieurs trains de sanctions américaines prises à la suite, on le sait bien sûr, du retrait de l'accord sur le nucléaire, il y a de nouvelles mesures qui ont été prises contre les gardiens de la Révolution. C'était au début du mois. Ce corps militaire qui a été créé après la Révolution de 1979 et qui figure désormais sur la liste des organisations terroristes aux côtés d'Al-Qaïda ou encore de l'ETA. C'est la première fois qu'une organisation vraiment étatique est placée sur cette liste. Pourquoi cette décision de Donald Trump ?
On est un an, quasiment jour pour jour, après le retrait de l'accord sur le nucléaire, qui en fait, qui n'est pas un retrait, qui est une violation de l'accord, en réimposant des sanctions. Je crois qu'il y a une volonté de la part de l'administration américaine d'accroître la pression sur le régime iranien. Et là, c'est un geste fort, puisque comme vous l'avez dit, c'est la première organisation étatique, c'est un corps d'armée qui est considéré comme une organisation terroriste et sanctionné en tant que tel. Les gardiens étaient déjà sanctionnés, bien sûr, mais c'était des sanctions du département du Trésor au titre de leur soutien à des organisations terroristes. Là, c'est plus du soutien, c'est les gardiens qui sont considérés comme une organisation terroriste.
Et les mesures, concrètement, ça va être quoi contre les passes d'armes ?
Alors, c'est des... Pour l'instant, ça, c'est pas très très clair parce que elles seront extrêmement étendues et surtout la difficulté, c'est que les Pazarans, c'est un corps d'armée, mais c'est aussi une puissance économique en Iran qui a énormément de ramifications, qui est très implantée dans le tissu économique. Donc c'est sans doute pour couper toute possibilité de faire du commerce avec ces entités-là, sachant que les sanctions qui sont déjà en vigueur sont déjà de nature à empêcher le commerce entre les Occidentaux notamment et l'Iran.
On parle déjà de nouvelles sanctions, on sait à quoi il faudrait s'attendre. Qu'est-ce qu'a prévu l'administration américaine ? Il y a des choses dans les tuyaux là ?
C'est sans doute sur les exceptions aux sanctions, puisque depuis le retour des sanctions sur le pétrole début novembre, 8 États bénéficient de waivers, d'exceptions. Ils peuvent continuer à acheter du brut. Mmh. C'est sans doute ces États-là qui pourraient ne plus avoir cette possibilité.
Jusqu'ici, Pierre Alonso, le camp des, on va dire, réformateurs, modérés, c'est souvent comme ça qu'on l'appelle, avait un peu du mal à se remettre justement de ce retrait, qui n'est pas un retrait, vous le disiez, mais une violation de cet accord sur le nucléaire. Finalement, vu de l'intérieur, l'option qui avait été choisie par le président Rouhani de discuter, de mettre en place un accord, quand on regarde les choses, en tout cas de l'intérieur, c'est vu comme ça, c'est un échec, puisqu'il n'a pas permis d'améliorer la situation, et notamment sur la question économique. La crise économique est très forte en Iran. Est-ce que cette nouvelle décision ne risque pas de renforcer finalement encore plus le camp des radicaux ?
Ça renforce les radicaux et puis surtout la République islamique fait bloc. Le lendemain de l'annonce de l'inscription des gardiens sur la liste des organisations terroristes, une immense majorité des parlementaires sont venus au Parlement, au Majlis, avec des uniformes de gardiens, y compris ceux qui critiquent l'action des gardiens à l'étranger et à l'intérieur. Donc là, la République islamique, comme souvent, fait bloc face à une agression, enfin, ce qui est perçu comme une agression extérieure.
Donc la stratégie de l'administration américaine, qui est de mettre la pression sur le régime iranien pour le faire revenir à la table et éventuellement obtenir un nouvel accord, cette stratégie, a priori, elle est compliquée. Les Iraniens ne sont pas franchement disposés à revenir discuter.
L'administration, non, mais il y a quand même une inconnue dans l'équation, c'est la population iranienne qui est étranglée par les sanctions, par aussi la politique économique catastrophique de l'administration Rouhani. L'année dernière, il y a eu des manifestations très violentes, des émeutes. Est-ce qu'il peut y en avoir d'autres? Est-ce que l'administration Trump parie sur un soulèvement de nature à faire tomber la République islamique? C'est possible. Le régime iranien maîtrise aussi très bien la répression et sait maintenir son assise.
Que peut faire l'Europe? Que peut faire l'Europe? Que faire la France en particulier pour contrer cette nouvelle offensive américaine? On se souvient que l'Europe a mis en place ce dispositif de contournement des sanctions, mais on voit bien qu'on ne sait pas vraiment ce qu'elle va pouvoir faire. En tout cas, concrètement, quand on fait le bilan aujourd'hui, c'est pas terrible. Qu'est-ce qu'on peut faire contre l'isolement de ce régime iranien? Et est-ce qu'on a en fait réellement la volonté de le faire?
Qui a une volonté de le faire, sans doute. L'Europe essaie de, et notamment la France, de séparer les sujets, de traiter différemment la question nucléaire, la question balistique, la question aussi du rôle de l'Iran en Syrie, et puis aussi de la déstabilisation, ou en tout cas des opérations clandestines de la République islamique en Europe. De traiter toutes ces questions séparément, mais c'est de plus en plus compliqué. Et puis surtout en face, il y a des interlocuteurs iraniens qui commencent à dire « Mais en fait, certes, vous voulez une position médiane, mais on n'en voit aucun effet, puisque le mécanisme qui est censé permettre de contourner les sanctions a été très long à mettre en place. Et puis, il y a très peu de chances qu'il apporte énormément à l'économie iranienne. On sait déjà que l'énergie passera pas par là, enfin que le commerce sanctionné ne sera pas concerné par ce mécanisme. Donc ce sera à la marge. C'est symbolique. Voilà.
Pierre Alonso, vous avez réalisé aussi un reportage sur les Afghans qui s'engagent dans l'armée iranienne dans le conflit syrien. Vous avez notamment rencontré Hossein, qui est un jeune Afghan de 23 ans, avec une coiffure de footballeur, dites-vous, qui vit illégalement dans le pays, comme à peu près 2 millions de ses concitoyens. C'est en tout cas les chiffres du Haut Commissariat pour les Réfugiés des Nations Unies. Et alors qu'il est tranquillement assis sur un banc dans un quartier pauvre de Téhéran, il vous montre du doigt un petit groupe qu'il qualifie de voyous et dont il vous dit qu'il parle comme des Fatemiyouns. C'est quoi les Fatemiyouns?
Les Fatemiyouns, c'est le nom d'une brigade qui est même devenue une division tant elle a grandi, qui a été créée aux environs de 2012-2013 par les gardiens de la Révolution pour soutenir le régime syrien de Bachar al-Assad. Officiellement, c'est une brigade politico-religieuse, puisque cet engagement vise à défendre les lieux sacrés du chiisme en Syrie. Mais personne n'est tellement dupe du lexique qui entoure et de ce folklore religieux. C'est clairement un soutien stratégique de l'Iran à la Syrie, pour lequel l'Iran avait besoin de main d'œuvre ou de chair à canon.
Oui, chair à canon, c'est quand même fort. Il y a une hypothèse, en tout cas, il y a une idée qui circule beaucoup en Iran, que au fond les Iraniens utiliseraient ces Afghans comme chair à canon, qui leur ferait faire des opérations kamikazes.
Ouais, les opérations kamikazes, c'est ce que m'a raconté le père d'un martyr, enfin d'une personne qui est, enfin d'un jeune homme qui est mort en Syrie. Lui dit que il en a la certitude, qu'il a vu le corps qui était démembré, mais bon, ce qui malheureusement prouve rien, que les gardiens étaient là à son enterrement. Et voilà, bon, il n'y a aucun cas documenté certain de Fatemiyoun qui serait kamikaze.
Ce que vous dit ce jeune Hossein, c'est qu'à l'époque, en 2013, il y a des moyens absolument considérables qui sont mobilisés pour trouver de jeunes recrues. On va aller un peu partout, on va les traquer dans les usines, dans les prisons. Il y a vraiment une très très vaste campagne de recrutement. Qu'est-ce qu'on leur promet à ces jeunes?
On leur promet un peu d'argent, mais surtout, c'est quasiment de l'enrôlement forcé, parce que c'est aussi, si vous venez pas, vous repartez en Afghanistan.
On leur promet des papiers.
On leur promet
aussi
des
un
papiers,
salaire évidemment, voilà. Mais des papiers aussi.
On leur promet des papiers qu'ils n'ont pas toujours d'ailleurs à l'issue. Mais bon, ils n'ont pas tellement le choix. Hossein a refusé. En tout cas, c'est ce qu'il raconte. Il dit que lui, il a préféré être renvoyé en Afghanistan parce qu'il ne voulait pas aller en Syrie, qu'il avait peur de mourir, qu'il ne voulait pas laisser sa famille seule derrière lui. Donc il a refusé. Il y en a beaucoup qui ont, enfin c'est pas tellement un choix en fait. Leur dit voilà, vous êtes illégalement en Iran. Là on vous propose de partir en Syrie pour combattre. Vous aurez de l'argent, vous aurez des papiers à l'issue. Dites oui. C'est pas tellement un choix qu'on leur pose.
Et beaucoup évidemment ils perdent la vie. Il y a notamment dans le grand cimetière de Téhéran un carré qui est désormais dédié à ces Afghans. Qu'est-ce qui se passe quand ils meurent au combat? Est-ce qu'on s'occupe un peu des familles des défunts? Est-ce qu'on prévoit des pensions, des logements, que sais-je?
C'est vrai que dans le grand cimetière qui est au sud de Téhéran, Behesht e Sahra, il y a un carré pour les défunts et pour les modafé et haram, donc les défenseurs des mausolées, c'est comme ça qu'ils sont appelés, qui sont donc ces combattants afghans qui vont se battre en Syrie. Ceux-là, c'est un peu ceux qui ont le plus d'honneur, parce qu'il y en a aussi beaucoup dont les corps restent sur place, qui sont faits prisonniers parfois, qui disparaissent tout simplement en Syrie. Il y en a finalement très très peu. Et c'est une mise en scène de montrer que dans le grand cimetière de Téhéran, on accorde un carré à ces vaillants combattants afghans. Voilà, il y a un côté un peu ostentatoire. Enfin, on veut le montrer, quoi.
Alors, lors des commémorations pour les 40 ans de la République islamique, vous avez fait aussi un reportage sur les universités iraniennes. Je le disais tout à l'heure, souvent le fer de lance des mouvements sociaux, des mouvements sociétaux, et donc particulièrement, évidemment, surveillés par le régime. Les campus sont des sites particulièrement contrôlés, et peut-être en particulier pour les étrangers, comme vous, qui cherchent à y pénétrer, qui cherchent à y recueillir des informations. Racontez-nous comment ça se passe quand vous vous présentez devant le gardien
du campus. Quand je me présente, on me dit « mais vous êtes Khaledji, vous êtes étranger ?» Oui, à évidence. Et c'est « non, vous rentrez pas, vous n'avez rien à faire là ». Donc après, j'ai réussi à rentrer parce que les campus sont quand même assez grands à Téhéran. Et puis, je suis rentré, je ne vais pas vous dire comment, mais par une porte, enfin, je n'ai pas escaladé. On peut quand même rentrer. Puis une fois qu'on est à l'intérieur, en fait, c'est bon. Parce que la surveillance, elle est sur la bordure, mais une fois qu'on est dedans, on peut discuter très librement avec les étudiants.
C'est même tellement bon qu'en fait, vous arrivez même à rencontrer le président de l'université, Mahmoud Nili. Quel genre d'homme est-il et qu'est-ce qu'il vous dit ?
C'est un homme qui est assez proche de l'administration Rouhani, qui est assez modéré. Donc, lui, il a une vision. Enfin, devant un journaliste occidental, il parle comme un représentant de l'État iranien. Et donc il dit que tout va bien globalement, que certes les étudiants ont fait la révolution en 79, mais qu'aujourd'hui ils veulent plus la faire parce que c'est bon, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, que quand ils veulent s'exprimer c'est possible, alors qu'il y a des étudiants quand même qui ont été arrêtés encore l'année dernière, et ça a été reconnu par ailleurs par des officiels iraniens.
Ça veut dire qu'il y a encore aujourd'hui des velléités contestatrices dans ces universités.
Et il s'est passé un truc, quelque chose d'assez intéressant l'année dernière, puisque quand il y a eu ces émeutes, qui étaient un peu partout dans le pays, y compris dans des petites villes en décembre et janvier 2018, l'université s'est retrouvée à la traîne, en retard. En fait, le mouvement politique le plus fort partait de contestation, partait d'ailleurs. Donc, très vite, les étudiants sont mobilisés. Et là, il y a eu un stop.
Une répression.
Une répression ensuite assez fine mais efficace.
Officiellement, c'est une université qui est l'une des meilleures du pays, avec des élèves qui réussissent, avec un fonctionnement d'établissement qui a l'air quasi modèle. Sauf que ce qu'on vous dit un peu en coulisses, c'est que la corruption en réalité a gagné l'université et que dans cette université, et probablement dans beaucoup d'autres, tout repose sur vos relations en réalité.
Oui, surtout pour les postes à responsabilité. Mais oui, et ça c'est quelque chose que les Iraniens regrettent beaucoup, je pense, parce qu'ils sont attachés à ce système éducatif, qui est quand même un grand apport de la République islamique. Puisque aujourd'hui... les Iraniens et les Iraniennes savent lire et écrire, c'était pas le cas sous le sous l'ancien régime. Il y a plus d'étudiantes que d'étudiants, c'est pas rien. Donc ils sont très attachés fondamentalement à cette université. Et depuis Ahmadinejad, mais ça s'est malheureusement poursuivi, la méritocratie, surtout dans des postes de responsabilité, est plus plus tellement celle qui dirige l'université. C'est plus de la relation et pas de la compétence.
Et les étudiants, quand ils sortent diplômés, ils ont une chance d'intégrer le marché du travail ou en réalité,
les étudiants, et ça je trouve que c'est terrible, aujourd'hui ils veulent partir, ils veulent aller à l'étranger, ils veulent aller en Europe, aux États-Unis, au Canada, enfin n'importe où, ils veulent juste quitter le pays parce qu'ils savent qu'ils auront beaucoup de mal à trouver du travail, que par ailleurs la vie est dure en Iran, que c'est vrai, ils savent qu'ils ont moins de liberté ici qu'ailleurs, donc ils veulent, je crois, moins se battre aujourd'hui pour leur État, pour leur pays, que juste le quitter.
Beaucoup de cette jeunesse iranienne avait voté pour le président Hassan Rouhani. Est-ce qu'elle a encore foi, justement, en Rouhani et dans le camp modéré, de façon générale ?
En Rouhani, non, je crois pas. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « c'est un menteur ». Et ça revient souvent, c'est un menteur, il est entouré de corrompus.
Il nous a trahis.
Il nous a trahis. Et ça, c'est vraiment très très fort. Non, dans le camp modéré, je pense que oui. Je pense que, mais là, sur la figure de Rouhani, très clairement, il y a un rejet. Qu'il n'y a pas, par exemple, sur Zarif, je crois. De ce que j'ai entendu, Zarif fait plus consensus, y compris auprès d'un public qui est quand même très exigeant, qui est un public politisé d'étudiants.
Réaction avec nos invités ici en plateau, Patrick Enzadeh, Djalel Archaoui, Marc Semo. Patrick Enzadeh.
Oui, c'est très intéressant. Moi, j'ai écouté avec intérêt.
Pas de réaction particulière.
Non,
Djalel Archaoui. Djalel Archaoui.
Non, c'est toujours les changements insufflés par l'administration de Trump. Donc c'est intéressant de voir une politique aussi agressive dans le cadre d'un retrait finalement des États-Unis. Donc on se demande où est la logique dans tout ça. Parce que ces nouvelles sanctions vont avoir des conséquences. Et en même temps, quand on regarde ailleurs, il y a un désintérêt diplomatique de la part des États-Unis. Donc c'est ce qui me frappe un peu.
Merci beaucoup, Pierre Anzo, d'être passé dans notre studio. Je rappelle que vous êtes journaliste pour Libération et qu'on peut retrouver l'ensemble de vos papiers sur le site de Libération.fr. Un grand merci.
ای ار ار نیمم طوله تر مچو سل توزون پرچین پر شیطان مچو بیار بروانی شکر از مچو ای حوان هیداد ای فریاد مچو شیرین سا مچو شیرین سا مچو چرخ شمسی
Allez, on va quitter l'Iran pour prendre la direction de la Libye. L'offensive militaire sur Tripoli sonne-t-elle le glas de la réconciliation nationale ? C'est notre question ce matin.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Ô héros, l'heure a sonné. Il est temps d'avancer comme vous l'avez toujours fait, d'un pas ferme et d'y entrer pacifiquement.
Les attaques des forces du maréchal Haftar et sa déclaration de guerre envers nos villes et notre capitale n'auront qu'une seule réponse, notre fermeté. Nous avons placé en état d'urgence l'armée et nos services de sécurité. Ils sont chargés de neutraliser toute menace envers nos citoyens.
Voilà, on entendait d'abord le maréchal Haftar, donc à la tête de cette offensive militaire depuis le début du mois d'avril, et puis on entendait également sa cible, qui est le Premier ministre Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement d'Union nationale, reconnu par la communauté internationale, qui accuse son rival de crime de guerre, une accusation évidemment rejetée par Khalifa Haftar, qui parle lui d'une opération antiterroriste. Alors que cherche le maréchal Haftar ? Le dialogue interlibyen est-il mort ? Et quel sera l'avenir de ce pays qui ne parvient pas à sortir du conflit depuis la chute de Kadhafi ? Patrick Hamzadeh et Djalel Archaoui sont nos invités. Marc Semo, notre partenaire du Monde, on va faire comme chaque vendredi, on va commencer avec vous Marc. Ce regain de violence, il est d'autant plus dramatique que, comme je le disais tout à l'heure au début de l'émission, les choses allaient plutôt dans le bon sens. Il y avait une conférence nationale qui était sur le point de se tenir. Elle a finalement été reportée, sine die, par le chef de la mission de l'ONU, Hassan Salameh. Par ailleurs, il y avait une grande consultation populaire qui avait été menée pour essayer de recueillir un petit peu les attentes des populations. On avait espoir que les choses aillent enfin dans le bon sens. Et là, le maréchal Haftar lance cette offensive sur Tripoli. Et on se dit qu'à nouveau, les minces espoirs qu'il y avait de paix s'évanouissent.
Oui, Marc. C'est le risque. Et la question qui se pose maintenant, qui est cruciale, c'est que faire du maréchal Haftar ? Et c'est une question en premier lieu pour la France, qui est le pays qui s'est le plus engagé depuis 2011 sur le dossier libyen, et qui, parmi les Occidentaux, fut le premier à donner un soutien à cet ex-compagnon d'armes de Kadhafi, qui avait lancé une guerre contre le terrorisme dès 2013-2014. Alors son offensive sur Tripoli s'annonce déjà comme un échec, c'est pas une surprise. C'est un piètre stratège, on l'avait vu au Tchad, où, quand il était le chef des troupes libyennes, il subit en 1987 une humiliante défaite. C'est un piètre politique, on le voit aussi avec cette attaque sur la capitale. Il espérait réussir par surprise, il espérait des soutiens internes, tout ça lui a fait défaut. Alors bon, c'est vrai, Haftar contrôle 80% du territoire, à l'est, au sud, reconquis il y a quelques mois, mais à peine un quart de la population. Il est donc nécessairement une partie de la solution, comme le soulignent régulièrement les autorités françaises, qui en même temps marquent leur soutien à Sarraj, le seul dirigeant reconnu internationalement. Mais tout le problème, c'est qu'Haftar veut être toute la solution à lui tout seul. Mmh. Alors il est soutenu par Abu Dhabi, par le Caire, par Riyad, voire par une partie de l'administration américaine, les plus durs, genre John Bolton. Mais on est dans une situation aujourd'hui extrêmement dangereuse, d'où d'ailleurs l'appel qu'a lancé alarmiste, l'émissaire de l'ONU, Hassan Salamé, qui évoque le risque de voir la Libye replonger dans une guerre civile la pire depuis 2014.
Alors on va faire évidemment de la diplomatie, on va beaucoup regarder comment dans la région et au-delà on pèse effectivement sur le cours de ce conflit. Mais d'abord Patrick Enzadeh, moi j'aimerais comprendre pourquoi le maréchal Haftar lance cette offensive maintenant. Qu'est-ce qu'il cherche ?
D'abord, quelque chose qui a été dit intéressant, c'est est-ce qu'on est vers un embrasement ? On est dans une troisième guerre civile en Libye. Clairement, on est déjà dans la guerre depuis le 4 avril.
La deuxième était vraiment terminée, telle qu'elle
commençait en 2014. Oui, je pense qu'il y a eu. Enfin, en tout cas, on n'était pas dans une guerre ouverte. Mais là, vraiment, on est à nouveau dans un affrontement entre. On pourra y venir après, mais entre deux modèles. Il y avait quand même deux modèles en Libye qui coexistaient jusqu'à présent. C'était un modèle militaire, avec le culte de la personnalité, quelque chose qu'on connaît bien dans d'autres pays de la région.
Côté Haftar,
à l'est, avec le maréchal Haftar. Et puis à l'ouest, on avait un modèle en construction qui était basé sur des compromis, effectivement sur parfois des affrontements. C'était une longue route, mais en tout cas, il y avait un processus politique. Donc, ce qui est en jeu aujourd'hui en Libye, c'est ça finalement.
C'est détruire ce processus politique. Mais
clairement, on avait la dernière fois que j'étais venu dans votre émission, j'avais parlé de ce processus de consultation, grand débat avant le grand débat français en Libye où on a consulté des milliers de personnes. Et ce qui ressortait de ces consultations populaires, c'est que les Libyens, une immense majorité des Libyens, ne veulent pas d'un régime militaire. Ils veulent un régime démocratique avec une armée aux ordres du pouvoir politique, une Libye unifiée et des institutions solides, avec aussi des pouvoirs locaux efficients. Donc, il y avait des attentes énormes de la population. Et c'est ça qui a été détruit, en fait, finalement, par cette offensive. C'est ces perspectives de paix. Vous parliez d'une réconciliation, bien sûr. Ça incluait aussi une charte nationale, une feuille de route vers des élections. Et la voie militaire, pour l'instant, a mis un terme. Et là, on est dans l'impasse.
Djalal Archaoui, votre regard sur cette offensive, au fond, pourquoi est-ce qu'il la met en place ? On a une partie de la réponse avec Patrick Hamzadeh. Ce que dit le maréchal Haftar, c'est « moi, mon objectif, c'est la lutte contre le terrorisme ». Il l'a encore dit sur cette opération-là, c'est crédible ? C'est un argument qui est crédible ? Lutter contre le terrorisme, voilà pourquoi il va sur Tripoli ?
Non, je pense qu'à partir du moment où on commence à avoir de la sympathie pour cet argument, on commence à vraiment augmenter ses chances de ne jamais comprendre ce qui se passe. Il y a eu une évolution, comme Patrick vient de le souligner, une évolution réelle, surtout au cours des 18 derniers mois. Il y avait eu, par exemple, un affaiblissement de l'islam politique à Tripoli. Il y a eu des purges, donc tout ça, ça rentre dans une espèce de d'échafaudage diplomatique extrêmement vaste et qui a été en grande partie conçu, mené, mis en œuvre dans le sens du maréchal Haftar. Et tout ce travail, il n'a pas été fait par lui, il a été fait par ses états parrains, par des acteurs locaux à la Tripolitaine. Et là, au dernier moment, parce qu'il a sans doute estimé qu'il était suffisamment proche de la ligne d'arrivée, et là, il faut définir ce que ça veut dire, la ligne d'arrivée pour lui, eh bien, il a tué tout ce processus-là. Non seulement il l'a tué, mais il l'a renversé en grande partie. Il y a des années de travail diplomatique. Alors, c'est pas un travail diplomatique qui est propre, il est défectueux, il est corrompu, mais ça allait dans le bon sens, j'allais dire. Et tout ça est maintenant six pieds sous terre.
C'est quoi la ligne d'arrivée pour lui?
Alors, justement, qu'est-ce que ça veut dire de négocier avec le maréchal Haftar? La ligne d'arrivée pour lui, c'est pas une Libye démocratique. C'est quelqu'un qui a des aspirations personnelles, qui ont trait à sa personne, à ses rêves à lui, et ses rêves sont similaires à celui d'Idriss Déby au Tchad ou Abdel Fattah al-Sissi en Égypte. Ce ne sont pas des rêves jeffersoniens, ce sont des rêves autocratiques.
Marc Semo.
Actuellement, donc, il est près de Tripoli, mais il n'arrive pas à avancer. Au contraire, il semble même que les défenseurs de Tripoli, notamment toutes les brigades, genre les brigades de Misrata, qui sont venus en renfort, marquent des points. Est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui que, avec y compris l'ONU mobilisé, le Conseil de sécurité qui essaie de concocter une résolution, à cesser le feu, et que l'on puisse, finalement, parce qu'il n'est pas trop tard, continuer ce processus aussi brinque-ballant qu'il soit, où c'est vraiment déjà trop tard? Parce que le nombre des victimes, on est à près de 200 morts, c'est beaucoup, mais c'est pas non plus un sang gigantesque.
Patrick Anzané.
Bon, je vais pas être pessimiste. Quand je disais qu'on est dans l'impasse, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des propositions de cesser le feu. Pour l'instant, les deux parties les ont refusées. Haftar, pourquoi? Parce qu'il veut la victoire militaire. Et bien sûr, la partie adverse, parce qu'elle ne se satisfera pas d'un cessez-le-feu avec les troupes d'Haftar qui restent dans la périphérie de Tripoli. On a vu qu'hier, il y a eu des bombardements de populations civiles qui sont à la portée des lance-missiles, etc., des lance-roquettes. Et donc, c'est une condition qui sera difficilement acceptable. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on est dans l'impasse, parce que, pour l'instant, il me semble difficile. Bien sûr, ça doit être recherché. On doit toujours aller vers une désescalade. Mais actuellement, je pense que les conditions ne sont pas réussies sur le terrain et auprès des deux acteurs pour pouvoir accepter ça. Alors, ça pourra le devenir si effectivement Haftar est suffisamment en situation d'échec pour essayer de trouver une porte de sortie. Mais connaissant le personnage et son passé, et ce qui s'est passé à Benghazi, où ça, effectivement il a repris la ville après 4 ans de combat en détruisant des quartiers entiers, je pense que effectivement ce sera très très difficile. Et vous parliez des résolutions de Conseil de sécurité, ça fait déjà 4 réunions du Conseil depuis le 4 avril, et ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une formulation justement qui fasse consensus.
Il y a un nouveau projet.
Donc il y a une division, là aussi il faut le dire, c'est important, il y a une division de la communauté internationale.
Et c'est qui soutient Haftar?
Au Conseil de sécurité. On a eu les blocages qu'il y a eu aux réunions précédentes. Bon, les Anglais sont très fermes pour dénoncer cette offensive.
C'est eux, qui sont à l'initiative
c'est les Britanniques.
Les Britanniques projet de résolution à l'ONU.
Sont aux commandes depuis le début. Et ceux qui freinent, bon, il y a eu la Russie et la France aussi.
La France a freiné.
La France a refusé, même si elle s'en défend, on voit bien aujourd'hui, de nommer effectivement un agresseur et un agressé, et a renvoyé les deux parties dos à dos, en rentrant dans la rhétorique aussi qu'il y a des groupes terroristes, bien sûr, à l'Ouest, etc.
On va revenir sur la question française qui est centrale et le soutien au maréchal Haftar qui a l'air assez clair quand même. Jalal Harchaoui, est-ce que vous croyez, comme demandait Marc Semo, à une possible désescalade, ou est-ce que pour vous, là aussi, c'est plus possible maintenant?
En fait, il faut un peu se placer dans les chaussures d'un habitant de Tripoli ou d'une élite tripolitaine. Qu'est-ce que ça veut dire, un cessez-le-feu? Ça veut dire accepter ce qui a déjà été pris par la force, par le maréchal Haftar. Et ça, c'est pour ça que, en grande partie, c'est rejeté. Donc un cessez-le-feu, ça veut dire tout ce qui a été pris encore de manière déjà violemment, finalement, Haftar peut le garder. Et ce qu'ils attendent, en fait, c'est une dénonciation, c'est une condamnation. Et ce qu'ils se disent, c'est qu'ils disent, voilà, avant le 4 avril, il n'y avait pas 10 morts par jour. Qu'est-ce qui s'est passé le 4 avril? Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui par rapport au mois de mars? Eh bien, il y a un acteur avec 18 000 troupes qui a envahi la Tripolitaine. Donc c'est pour ça qu'ils veulent une focalisation sur un acteur précis. Et il y a 3 États au niveau du Conseil de sécurité qui résistent à cela. Eh bien, c'est la Russie, qui a l'habitude de le faire en Syrie depuis 8 ans. Donc elle a beaucoup d'expérience dans le domaine. Mais il y a aussi l'administration Trump et la France.
Patrick Hamzadeh, Peut-être que le pari d'Haftar, en lançant cette offensive, c'était au fond de retourner les milices pro-gouvernementales qui sont autour de Tripoli pour les rallier et pour faire tomber effectivement le gouvernement de Tripoli. Visiblement, effectivement, comme Marc le disait, ce pari-là n'a pas fonctionné puisqu'il n'avance plus, la ligne de front est bloquée. Pourquoi est-ce que ces groupes-là, ces milices qui sont, on va dire, pro-gouvernementales, qui soutiennent aujourd'hui Tripoli, soutiennent encore Sarraj?
Bon, d'abord, je crois qu'il y a plusieurs aspects qu'il faut retenir. Je pense que dans le pari du maréchal Haftar, il a fait le pari, bien sûr, de pouvoir s'appuyer sur des groupes ou des communautés à l'ouest en tant que soutien. Hein. Donc, il y a des villes qui l'ont accueilli, comme Tarouna, une ville qui est au sud-est de Tripoli, et dans une moindre mesure, une autre ville, Ralian, qui est au sud, qui a été un petit peu un point d'appui pour son offensive, et qui est une place fortifiée, vraiment. C'est une ville en haut d'une route de montagne, donc qui est très difficile d'accès en partant de Tripoli, qui a tenu en 2011 jusqu'à juillet. Hein, c'est une ville fidèle au régime en 2011. Donc, il s'appuie, et c'est ça le risque. C'est ça que je voudrais faire ressortir. Le risque, c'est une fragmentation du tissu social à l'ouest, avec effectivement des communautés qui soutiennent le maréchal Haftar pour différentes raisons. Parce qu'elles ont été rejetées, par exemple, des arrangements sécuritaires à Tripoli. D'accord. Ça a été le cas pour les milices de Tarouna, pour un certain nombre de gens à Tarouna, parce qu'ils se sont sentis, en septembre dernier, exclus de la manne sécuritaire, je dirais, et tout ce qui va avec à Tripoli. Donc il y a des revanches, il y a plein de choses sur lesquelles il a joué, qui font que c'est extrêmement sérieux et grave, parce que on n'est pas dans un affrontement Est-Ouest. Comme je l'ai dit, il y a des modèles de société qui s'affrontent, des modèles politiques, mais on a un risque de fragmentation. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont toujours vécu les uns à côté des autres et qui seront appelés à vivre encore à côté des autres. C'est des voisins. Et donc ça, c'est grave et c'est dangereux pour l'avenir du pays. C'est pour ça que je dis, alors pourquoi les milices soutiennent Haftar? Parce qu'effectivement, là, il y a clairement une défense du territoire où c'est le local qui prime et on défend sa ville, on défend sa communauté contre ce qui est perçu comme une agression extérieure. Mais il y a aussi, il faut le dire, un soutien spontané de la population de Tripoli, élite comme population, des gens qui refusent une administration militaire. Et donc, ils sont descendus dans la rue. Il y a eu des milliers de manifestants vendredi, à l'appel des femmes, d'ailleurs, des associations de femmes. Et ça a été, enfin, la place des martyrs, qui est la grande place de Tripoli, était remplie de manifestants. Donc, vous voyez, il y a plusieurs choses qui font que les milices ne sont pas quelque chose d'isolé, qui défend uniquement leur petite manne, bien sûr.
Jalal Harchaoui, si on remonte un tout petit peu dans le temps, en février dernier, sous l'égide de l'ONU, on était parvenu à trouver un accord à Abu Dhabi entre le Premier ministre Sarraj et le maréchal Haftar. Il me semble qu'il n'ait pas été complètement appliqué, en tout cas puisqu'il aboutit à cette situation-là. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce que prévoyait cet accord et qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas tenu? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été appliqué? À qui la responsabilité? On avait avancé.
Oui, l'accord consistait à conclure un autre accord. Donc c'était pas.
On s'était mis d'accord sur un accord.
Voilà, il fallait un deuxième sommet. Certains disaient qu'il allait avoir lieu à Abu Dhabi, d'autres disaient qu'il allait avoir lieu à Genève. L'idée était que l'opération dans le Fezzan avait suffisamment impressionné les élites tripolitaines pour qu'elles se mettent un petit peu par terre. J'exagère un peu, d'accepter une montée politique du maréchal Haftar en Tripolitaine. Donc c'était un petit peu le concept. Et l'idée c'était de refaire un nouveau gouvernement soutenu par l'ONU. Complètement remanié.
Intégrant donc les forces du maréchal Haftar.
Voilà, et qui soit même politiquement surtout biaisé en faveur du maréchal Haftar.
Ouais,
et ça veut dire qu'on était d'accord sur une idée de concession. Le problème, c'est que pour lui, une concession, dans l'esprit du maréchal, c'est une concession qui est faite par l'ennemi, pas par lui. Donc cette idée de zéro concession a vraiment commencé à causer des malentendus au mois de mars. Et c'est pour ça qu'il est revenu vers la sphère militaire.
Patrick Hanzadeh, même si on ne doute absolument pas de la volonté, de la bonne volonté de l'ONU et de son représentant, force est de constater que Hassan Salamé ne parvient pas à rassembler les conditions d'un dialogue interlibyen. On voit là cet accord de février qui finalement n'a pas fonctionné. Quelle part de responsabilité pour l'ONU et pour son représentant en Libye? Est-ce que certaines choses ont été mal ou pas faites?
Écoutez, c'est toujours facile de trouver un bouc émissaire, une personne à Saint-Salmé. Il faut pas oublier quand même que le 4 ou 5 avril, Antonio Guterres était était en Libye. Donc l'offensive du maréchal Haftar, c'est pas uniquement Rassassamé, il a attaqué, et Antonio Guterres est allé voir Haftar à Rajma, donc à l'est de la Libye, et lui a proposé une réunion, enfin l'idée c'était de lui proposer une réunion à Genève, en tout cas à l'extérieur de Libye, pour trouver un accord. L'autre a refusé. Hein, et on a cette image d'Antonio Guterres sortant du palais, enfin du bureau d'Haftar, en disant je parle à Libye le cœur gros et je laisse aux Libyens maintenant les Libyens entre le sort des armes. C'est, si vous voulez, ça a été quand même, oui, un énorme camouflet pour l'institution onusienne. Et puis, mais je pense que, et il faut en revenir aux divisions, c'est que l'ONU finalement est le reflet de l'unité de la communauté internationale. S'il y avait des divisions, je pense que Rassassamé pouvait aller. Même si on peut toujours reprocher un certain nombre de choses, il avait les mains liées.
Maximo.
Oui, mais justement, à propos de cette impuissance de l'ONU qui est celle de la communauté internationale, quels sont les réels moyens de pression dont disposent notamment les Occidentaux et les Français en premier lieu, vis-à-vis d'Haftar, mais aussi sur Sarraj, pour les obliger à accepter cette espèce de logique de compromis amorcée à Abu Dhabi qui aurait dû se continuer?
Là, je vais appuyer un petit peu là où ça fait mal, c'est les violations assez visibles, spectaculaires, provocatrices, qui sont commises d'une manière régulière depuis une demi-décennie par les pays du Golfe. Donc quand les Émirats Unis livrent des armes en ignorant entièrement les
sanctions,
eh bien l'ONU ne se sent pas en possibilité de le dire. Donc il y a un tabou, on ne peut pas parler de ça. Et du point de vue du maréchal Haftar, il y a deux sphères à sa disposition. Il y a la sphère politique, dont on parle de la diplomatie. Il y a une autre sphère, c'est une liberté absolue de recevoir des billets de la Russie, des billets de dinars, hein, imprimés milliard après milliard par la Russie. Là, personne n'ose en parler, alors que c'est quand même une violation par rapport au gouvernement reconnu internationalement de Tripoli, et surtout des armes. Donc lui, il a un petit peu le luxe comme ça de pouvoir passer d'une sphère diplomatique vers une sphère militaire quand il veut, et il a compris qu'aucune puissance occidentale a la possibilité d'évoquer cela, d'en parler, de condamner, de soulever le débat. Et ce silence-là, c'est vraiment...
Mais pourquoi ils n'ont pas cette possibilité?
Parce que dans un contexte régional, il y a ce dont je parlais tout à l'heure, il y a un retrait des États-Unis. Donc on se retrouve avec des puissances quand même plus faibles que les États-Unis, on se retrouve avec des puissances un peu comme la France, eh bien, qui sont obligées de se reposer sur des puissances qui d'ailleurs sont de plus en plus agressives, qui prennent de plus en plus la sécurité, comme ils l'entendent, dans leurs mains. Et là, on ne peut plus du tout les critiquer. Parce que sinon, ils vous laissent tomber et ils vont voir la Chine, ils vont voir la Russie, ils ont beaucoup d'autres alternatives.
Patrick Enzadeh, on n'a plus de levier de pression?
Non, je pense qu'effectivement, on a des... Alors, les leviers, ça commence par la volonté. Hein, effectivement, faut avant d'avoir d'évoquer
les leviers... On a des leviers, mais pas la volonté.
Écoutez, je pense qu'on n'a ni l'un ni l'autre. Je pense qu'on a ni l'un ni l'autre. Hein. Et maintenant, il y a quelque chose que je voudrais dire qui est important, parce que c'est un message qu'il faut qu'il soit entendu, c'est que les gens qui pensent, et il y en a en France, que le maréchal Haftar ou cette méthode a la possibilité de stabiliser, d'apporter de la stabilité à la Libye, ou même de gagner, hein, on va vous dire, à Benghazi, il a fini par l'emporter, je pense que c'est une grave erreur d'analyse qui risque d'avoir des conséquences pour les décennies à venir. Parce qu'en fait, je pense que son projet ne peut pas être porteur de stabilité. On est dans un pays où il y a 20 millions d'armes. Si tant est même qu'il arrive à rentrer dans Tripoli, hein, et à prendre quelques ministères, ou qu'est-ce que ça veut dire, effectivement, contrôler une ville, il ne pourra pas apporter la stabilité à ce pays. Et ça, je crois que c'est important de le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tentés, hein, dans nos administrations, dans la sphère, y compris intellectuelle en France, d'imaginer que finalement, ça peut apporter de la stabilité. Et la dernière chose qu'il faut dire, c'est qu'outre le modèle militaire, il y a l'alliance avec le salafisme. Donc, c'est-à-dire, c'est un modèle militaire avec, au niveau sociétal, ce qu'il peut y avoir, je dirais, de plus, entre guillemets, rétrograde, puisque on sait que Haftar est allié, effectivement, aussi à des milices salafistes. Alors, de façon structurelle, je dirais.
Un peu de suspense, on va revenir sur ces deux points, et notamment sur le premier que vous avez évoqué, parce que c'est une critique assez claire, en fait, de ce que fait la diplomatie française aujourd'hui. On sait que Jean-Yves Le Drian régulièrement rencontrait Haftar, que le soutien. Et là, on va y revenir. D'abord, place à notre partenariat avec Cartooning for Peace, cette association de caricaturistes du monde entier. Le vendredi, on sélectionne un dessin en fonction de notre actualité du jour. On le diffuse sur les réseaux sociaux. C'est notre bulle cartooning du vendredi.
Il fait le clown.
Mais on a été créé pour faire rire les gens, mon vieux.
Assis.
Bonjour Mélanie.
Bonjour Florian,
Mélanie,
bonjour à tous.
Mélanie Chalandon, un dessin aujourd'hui Mélanie qui nous rappelle qu'en Libye se joue aussi le sort de milliers de migrants.
Effectivement, un dessin qui rappelle et surtout qui dénonce cette situation, à savoir le cynisme et l'inhumanité qui prospèrent sur l'immigration illégale. Il est signé Georges Million, un caricaturiste français, savoyard même. Il travaille notamment pour la presse locale de la région. Alors, nous sommes sur une plage en Libye, au bord de la Méditerranée. On aperçoit au loin ce qui semble être une ville, Tripoli certainement. En fait, on voit surtout d'épaisses colonnes de fumée noire qui montent au ciel. C'est la guerre qui fait rage. Le dessin date du 11 avril, une semaine après le début de l'offensive du maréchal Haftar. Et pendant ce temps-là, sur la plage, deux passeurs totalement désœuvrés contemplent la scène. Avec la guerre, les marchandises sont bloquées aux frontières, se lamente l'un d'eux. Les marchandises, je vous parlais de cynisme, ce sont ces hommes et ces femmes candidats à la périlleuse traversée de la Méditerranée sur des bateaux de fortune pour une fortune. Justement. D'ailleurs, les passeurs ont affiché leurs tarifs près des embarcations. Il y a un prix pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, comme s'il s'agissait de faire un tour en pédalo. Et d'ailleurs, Million en joue de cette triste analogie avec une quelconque activité balnéaire, jusque dans les moindres détails. Petites guérites de plage en bois, chaises pliantes, ventilateurs et tongs. Sauf que des candidats à l'embarquement, eh bien, il n'y en a point. C'est une des conséquences de la reprise de la guerre civile, nous dit le dessinateur. Dans le titre même de son dessin, effectivement, difficile dans ce contexte pour eux de reprendre la route. Et pourtant, voilà que la crise migratoire est déjà agitée comme un chiffon rouge de part et d'autre de la Méditerranée. Laisser le chaos s'installer en Libye et les traversées reprendront de plus belle, s'alarment déjà Français et Italiens. À Rome et à Paris, on parlait ces derniers jours de 800 000 personnes prêtes à embarquer. Des anticipations largement critiquées par le Haut Commissariat aux réfugiés à l'ONU, qui s'inquiète par ailleurs du sort des milliers de réfugiés bloqués dans les centres de détention à Tripoli. L'ONU a d'ailleurs appelé à la libération immédiate et à l'évacuation de ces personnes. En attendant, dans ce dessin, le business des passeurs est à l'arrêt et ce n'est peut-être pas plus mal.
Merci beaucoup Mélanie Chalandon pour ce dessin qu'on diffuse sur les réseaux sociaux, le fil Twitter, le site de Culture Monde, etc. etc. Peut-être une réaction. Marc Sémo parlait juste avant de levier, en voilà un de levier, la migration. Je ne sais pas si vous avez regardé l'un et l'autre l'interview de Sarraj sur Sky News, mais le 800 000, je pense qu'il sort de là, en fait. C'est lui qui dit, Sarraj, qui a dit cette semaine, si la guerre reprend, je vous préviens, il y a 800 000 migrants qui vont partir vers l'Europe. Je pense que c'est de là, d'ailleurs, d'où vient le chiffre. Réaction sur le dessin et cette question migratoire qui, évidemment, préoccupe particulièrement l'Europe. Jalel Harchaoui.
J'aurais tendance, moi, à attirer l'attention sur l'attitude de l'Italie depuis l'arrivée du gouvernement actuel, qui est plutôt un gouvernement de droite populiste. Eh bien, ils sont arrivés et ils se sont rendus compte que les statistiques étaient grosso modo nulles. Hein. Les statistiques, en réalité, avant la guerre, c'était, en termes d'arrivée de migrants irréguliers en Sicile, c'est environ 200-300 par mois. Donc, ça explique en grande partie pourquoi une des puissances qui ont été vraiment complaisantes par rapport au maréchal Haftar, parce que c'était la politique du gouvernement de Giuseppe Conte, et de Matteo Salvini depuis cet été, c'était d'aller parier sur Haftar. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que, eh bien, puisque maintenant le problème migratoire était résolu de leur point de vue, hein, je ne parle pas des horreurs qui sont infligées aux migrants sur le territoire libyen, eh bien maintenant on peut se permettre d'avoir une solution militaire, puisque maintenant on est presque arrivé. Et là, au jour d'aujourd'hui, l'Italie se rend compte qu'effectivement, il va y avoir une reprise, que Sarraj sans doute exagère, mais qu'il y a une partie de vrai. Et d'un point de vue diplomatique, les Italiens regrettent leur politique des 6 ou 9 derniers mois.
Patrick Hanzadeh, sur le dessin, sur cette question migratoire, sur effectivement aussi peut-être des divergences de vues entre Rome et Paris, parce que là, Jalel Harchaoui nous dit que finalement, il regrette et que d'une certaine manière, Haftar pourrait être aussi la solution, ce que pensent aussi les Français. Or, ce qu'on regarde quand on parle de l'Union Européenne, Federica Mogherini a fait une annonce assez consensuelle sur la chose, mais ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de dissensions entre Paris et Rome sur ce dossier-là. Alors, quel est le problème, Patrick Hanzadeh?
Bon, en fait, il y a plusieurs niveaux d'analyse. Je pense qu'il y a une rivalité en ce moment, là aussi, sur deux modèles, hein, sur les élections européennes. Emmanuel Macron se présentant comme le héros d'une Europe ouverte et progressiste, et renvoyant Salvini à son populisme de droite. Et de l'autre côté, effectivement, il y a les Français donneurs de leçons, hein, qui nous disaient l'année dernière qu'il fallait qu'on fasse des gestes pour accueillir les migrants, alors qu'en fait la France n'était pas prête à en accueillir davantage. Donc, si vous voulez, il y a une rivalité sur ce dossier qui dépasse uniquement la question libyenne. Et je pense que la Libye intervient en périphérie. C'est pas le sujet de différent principal. Il y a d'autres choses dans ce qui se passe en ce moment entre la France et l'Italie. Maintenant, que l'Italie ait effectivement un petit peu fait évoluer sa position à l'égard d'Eftar ces derniers mois, c'est vrai, mais elle était quand même plutôt beaucoup plus considérée comme soutenant de facto, et dans les faits, je veux dire, le gouvernement de l'Ouest. Par exemple, les Italiens ont un hôpital militaire à Misrata à l'Ouest, avec des soldats, hein, qui protègent cet hôpital, sont toujours en Libye de l'Ouest, et on n'a pas de brûlé de drapeau italien la semaine dernière à Tripoli, alors qu'il y a eu des critiques très fortes de la position française.
Marc, je suis d'accord avec Patrick Hamzadeh, c'est-à-dire s'il y a eu un petit basculement des Italiens, parce qu'il faut quand même, surtout... Ça doit être dans une logique du processus de paix. Aussi parlé avec Haftar, les Italiens ont soutenu l'Ouest, et pour une raison très simple, c'est-à-dire que depuis le début de cette crise, les priorités de la France et de l'Italie sont différentes. Pour l'Italie, la priorité, elle est double, c'est l'émigration, et l'émigration, c'est l'Ouest. Pour des raisons étranges, toutes les migrations qui viennent de Libye passent par l'Ouest vers l'Italie, et jamais depuis l'Est, vers la Crète. Ça a été totalement marginal. Deuxième chose, le pétrole. Et là aussi, c'est l'Ouest, les autorités centrales. Pour les Français, en revanche, la priorité, dès le début, ça a été la question sécuritaire. La stabilité du Sahel, la stabilité du Maghreb. Et donc, aussi pour ça, les Français ont pris langue avec Haftar, même si officiellement ils soutiennent le gouvernement Sarraj, etc. Haftar, dans sa lutte contre le terrorisme, ou autoproclamait-elle, était un partenaire nécessaire parce que c'était celui qui, militairement, au moins en apparence, semblait avoir le plus de résultats. Et parce que la France, pour elle, c'était ça, la priorité centrale de sa politique libyenne.
Raison pour laquelle, d'ailleurs, à chaque fois que Jean-Yves Le Drian va en Libye, il rencontre le maréchal Haftar. Djalal Archaoui.
Oui, tout cela est vrai, mais ce qui est intéressant de voir, c'est dans les moments de crise aiguë, comment les deux États se comportent. 2016, par exemple, l'exploitation pétrolière était largement bloquée, quasiment à 90%. Il y avait Daesh, il y avait, comme je le disais tout à l'heure, plus de 10 000 migrants qui arrivaient en Sicile par mois. Dans ces moments-là, l'Italie a toutes les raisons de paniquer. Le niveau de panique à Paris, il n'est pas très élevé. Pour la campagne de Sirte contre Daesh, la France était plutôt absente. C'était plutôt les Britanniques, les Américains et les Italiens. La France... Alors c'est complètement contre-intuitif. On pourrait penser que la France, puisqu'elle est si préoccupée par la sécurité, serait au premier rang pour combattre Daesh à Sirte.
Il y avait un partage des rôles avec les alliés, disons.
Et alors justement, sur ce risque-là, Patrick Hamzadeh, parce qu'il y a toujours évidemment des groupes djihadistes, alors bien sûr on n'est plus dans la situation où effectivement on tient des grandes villes comme Sirte, qui était tombée dans les mains de Daesh, qui a finalement été reprise à la fin 2016, mais est-ce qu'aujourd'hui le départ de cette peut-être nouvelle guerre civile, vous disiez troisième guerre civile tout à l'heure, est-ce que ça, il y a un risque d'émergence d'une nouvelle force particulièrement installée en Libye? Pourquoi pas un nouveau califat?
Bon, pour l'instant, les points d'ancrage, c'était le dernier, c'était Sirte, il a été réduit. Maintenant, oui, il y a forcément des cellules. L'absence d'État efficient rend toutes les... Et puis surtout, la superficie. Enfin, c'est un pays immense, peu peuplé. Donc la semaine dernière, ou il y a 10 jours, il y a eu un attentat dans une petite ville du centre de la Libye, qui s'appelle Fougara, où effectivement, un groupe apparenté à Daesh, en tout cas qui a été reconnu aussi par Daesh comme un de leurs groupes, a attaqué la garde communale et assassiné un certain nombre de gens qui sont considérés comme pro-Eftar. Donc bien sûr que ce conflit, je dirais, détourne l'attention de la reconstruction des institutions sécuritaires et forcément laisse des portes et une marge de manœuvre à ce type de groupe pour agir avec plus de latitude.
Jalal Harchaoui, sur ce risque djihadiste?
Pour moi, c'est une certitude. Il va y avoir une recrudescence de ces groupes-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est le temps de retard. Parce que même si j'ai raison, ça va prendre plusieurs mois. Même si, à mon avis, le processus est déjà enclenché, ça va prendre des mois. Et donc c'est suffisant, finalement, pour le maréchal Haftar d'engager ses parrains étrangers, les forcer un petit peu à l'aider encore plus que ce qu'il l'aide maintenant. Et ça suffit pour lui.
Il nous reste très peu de temps, mais il y a quand même une question sur laquelle je vais vous entendre, Patrick Hamzadeh. On a parlé de l'ONU, on a parlé de l'Union européenne. Finalement, on n'y arrive pas aussi parce qu'on est divisé. Quid de l'Afrique? L'Union africaine a appelé à une grande conférence en juillet, cet été, pour faire un dialogue inter-libyen. Al-Sissi a pris la parole. Il a dit, il faut qu'on trouve des solutions africaines à nos problèmes africains. Est-ce qu'on peut compter sur l'Union africaine? Est-ce que finalement, c'est pas par là que passera le salut de la Libye?
Bon, je pense que
l'Afrique... On a peu de temps, mais je voudrais vous entendre.
Oui, l'Afrique avait effectivement cette volonté d'organiser une conférence à Addis Abeba, et c'était prévu au mois de juillet, après la conférence nationale. Absolument. Donc sous forme un petit peu de réunion de réconciliation avec les chefs tribaux, etc. Bon, l'Union africaine, depuis 2011, bien sûr, a envie de jouer un rôle, et s'est sentie écartée en 2011 par l'intervention de Nicolas Sarkozy. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que ça me paraît difficile. Il faut savoir que la présence de l'Union africaine en ce moment est assurée par l'Égypte, donc effectivement, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une partie au conflit quasiment. Donc ça sera difficilement, à mon avis, un arbitre ou un honnête broker dans cette affaire.
Vous êtes d'accord, Jalal Harchaoui? L'Union africaine, difficile
oui,
de compter sur
l'Union africaine
dans ce dossier.
L'Union voudrait que la Libye soit un pays africain, mais dans la réalité, c'est un pays plutôt du Moyen-Orient, de l'univers arabe, parce que à cause de la présence du Golfe, par exemple. Donc il y a une tradition qui consiste à ignorer l'Afrique, et elle va continuer de plus belle.
من ليبي تم ماشي وماسك الكفن في ديه من لوطة هاتك وضرب قاعدة ترن الدبابة وفوق راسك تزن تقصف لاباتشي الدبابة يعني ألزمني كانك ما تفكر تحرك تحريكة والبيكي دي تغلط لك خذ لك ساتر بيكا فيكا بلجيكي سحبة مسلاح الشيطان كلاشنكوف.
Merci beaucoup à nos invités, Patrick Hamzadeh, ancien diplomate. Je rappelle pour les auditeurs qui veulent plonger encore plus dans cet environnement libyen que vous êtes l'auteur de Au cœur de la Libye de Kadhafi, qui était paru chez Jean-Claude Lattès. Jalal Harchaoui, merci infiniment de nous avoir éclairé ce matin également. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut des Relations Internationales à La Haye. Alors je dis comme ça, mais en fait il a un autre nom, ce think tank.
Kleindaer.
Voilà, j'y arrivais pas, je préfère que ce soit vous qui vous en occupiez. Merci beaucoup cher Marc Semo.
Merci.
Voilà, on se retrouve pas la semaine prochaine, Marc, parce que moi je vais prendre quelques jours de vacances. Donc c'est Mélanie Chalandon qui va prendre les commandes de Culture Monde. Mais vous serez là pour tenir la baraque, évidemment. Et c'est Mélanie donc que vous retrouverez à partir de lundi. Et quant à moi, je vous retrouve dans une dizaine de jours. Il est 11h, presque 53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Ah, la Suède, un pays qui nous fait rêver depuis longtemps. Hein.
Oui, j'ai même passé des vacances, figurez-vous. Curieux pays, la Suède. D'un côté, vous avez un modèle que toute l'Europe envie pour son système social universaliste, efficace et généreux, son insertion réussie dans la mondialisation, son niveau de vie bien supérieur au nôtre. PIB par habitant, je le rappelle, supérieur à 50 000 dollars par an chez eux, inférieur à 43 000 chez nous. Grâce à un système de garde d'enfants et de congés parentaux intelligents, les Suédoises bénéficient d'un meilleur niveau d'égalité professionnelle et de salaire avec les Suédois que le reste de l'Europe. Le taux d'emploi de la population en âge de travailler est d'ailleurs le plus élevé d'Europe, 78%. Alors que nous avons, nous en France, l'un des plus bas, avec 65,6%. Quand beaucoup de gens travaillent, financer l'État-providence devient facile. La Suède est un pays en pointe aussi dans le domaine de la défense de l'environnement. Les Suédois ont réussi la modernisation de leurs services publics en les privatisant et en donnant une très grande autonomie à leurs responsables. Passer du public au privé et réciproquement n'est pas rare. Dans ce pays très attaché à l'égalité de traitement, il n'y a pas de statut ni de régime spéciaux. Le régime de retraite par points est le même pour tout le monde. En outre, on reconnaît généralement que ces services publics efficaces et cet État-providence généreux ont su s'adapter à la demande d'individualisation qui émane d'une société qui se diversifie comme partout. Mais la Suède a aussi une face sombre. C'est celle qu'ont révélé le polar nordique à la Henning Mankell ou Stieg Larsson, ou des séries comme Bronn. Sous le lisse vernis de perfection loge une société malade, écrit à ce propos le Financial Times. Et celle-ci s'est révélée à l'occasion des élections de l'an dernier. La fameuse stabilité politique suédoise, bâtie sur la solidité d'une des social-démocraties les plus anciennes d'Europe. Ce parti est demeuré sans discontinuer au pouvoir de 1932 à 1976. Eh bien, cette stabilité a été prise en défaut. Aucun parti n'est sorti vainqueur des élections de septembre dernier. Les sociaux-démocrates ont accusé à nouveau un fort recul, mais ils restent en tête avec 28% des voix. En face, l'alliance de la droite et du centre atteignait certes les 35%, mais elle s'est révélée incapable de se mettre d'accord sur un programme de gouvernement. Le jeu politique suédois habituel a été troublé en outre par l'apparition, là comme un peu partout, d'un nouvel acteur politique en provenance de l'extrême droite populiste, les démocrates de Suède. Élection après élection, ce parti ne cesse de progresser, 17% des suffrages en septembre dernier. Les partis de droite jugent ces démocrates de Suède infréquentables et n'envisagent pas de l'inclure dans une quelconque coalition. Du coup, ils ont dû se résigner à laisser le gouvernement à une alliance minoritaire entre les sociaux-démocrates et les Verts, soutenue à la fois par une partie de la droite et par l'extrême gauche.
Mais alors Brice, la social-démocratie suédoise serait-elle cette fois dépassée?
Comme l'explique Thomas Lindbom sur le site Telos, les sociaux-démocrates suédois forment historiquement le parti de masse des salariés, imprégné d'une pensée nationale. Le haut niveau de redistribution était légitimé par la forte homogénéité culturelle et sociale du pays. L'État-providence se disait d'ailleurs en suédois la maison commune. Aujourd'hui, ce parti se trouve bousculé par les métamorphoses de la société suédoise. Vous avez là un salariat éclaté, beaucoup d'auto-entrepreneurs et de personnes employées dans des petites entreprises du secteur de la connaissance et une société devenue de facto multiculturelle. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre le malaise que provoque en ce moment en Suède le livre de Cassia Norman, une journaliste d'investigation suédoise qui est aujourd'hui basée à Londres. Dans ce livre, traduit par Sweden Dark Soul en anglais, elle suit l'itinéraire en Suède de deux hommes. Le premier, Chang Frick, fils d'un juif polonais et d'une tzigane, est un militant des démocrates de Suède. Il s'est fait un nom en dénonçant sur son site internet les agressions sexuelles massives commises par des immigrés lors du festival We Are Stolm de 2015, que la presse suédoise avait longtemps passé sous silence. L'autre, Samvel Atabakian, est un immigré venu d'Arménie qui rêvait, lui, de devenir citoyen suédois et qui vient d'être refoulé du pays. Car sous l'influence des démocrates de Suède, les sociaux-démocrates eux-mêmes ont durci considérablement leur politique migratoire. Et Cassia Norman accuse les élites dirigeantes suédoises d'avoir favorisé en réalité la montée du populisme xénophobe en refusant de reconnaître les tensions qui traversent le pays, la montée de la criminalité, la ségrégation géographique qui caractérise dorénavant la société suédoise. Par fierté nationale, les Suédois n'aiment pas qu'on leur démontre que leur société n'est pas plus exemplaire qu'elle pensait l'être, qu'il existe un racisme aussi en Suède, et que leur pays, habitué à une société très homogène, parvient mal, en réalité, à intégrer ses immigrés. 20% des habitants actuels de la Suède sont nés à l'étranger. C'est le pays d'Europe qui a accueilli le plus fort pourcentage d'immigrés par rapport à sa population. Et ce n'est pas sans lui poser les mêmes problèmes que partout en Europe. Il n'y a plus d'exception suédoise.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.